Sous leurs coups, sous leurs abus, une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. C'est pourquoi, au silence vide de l'indifférence, je vous propose ce matin d'opposer le silence vibrant du respect pour Sophie, Anna, Émilie, Fatima, Catherine. Je ne le citerai pas toutes. Elles sont 123 à être décédées en 2016. Je vous prie d'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, depuis quelques semaines, ça balance à Paris et dans le monde sur les réseaux sociaux et par voie de presse, des ports, des situations de harcèlement, des agressions, relayées par des campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, traduites samedi par le président de la République en grande cause nationale, celle de l'égalité femmes-hommes. Au milieu de cette séquence, on s'est interrogé à demi-mot sur l'opportunité des rétrospectives Polanski, puis Brissot à la Cinémathèque parisienne, sans trop oser en débattre. Le patron de la Cinémathèque s'automutilant en regrettant le retour de l'ordre moral et des ligues de vertu. On a vu aussi des révélations sur Tariq Ramadan, visé par des plaintes pour viol, se transformer en une bataille assez indigeste entre deux gauches, dit-on. Charlie, à nouveau menacé de mort, Edwy Plenel caricaturé, les complices démasqués, les postures morales s'afficher et même le retour des intentions cachées, allusion au trait commenté. L'un des objectifs de la campagne hashtag balance ton porc était de noyer le poisson de l'islam d'Alain Finkielkraut. Eh bien, objectif manqué, puisque le poisson n'a pas manqué de refaire surface au détriment peut-être de la parole des femmes. Comment remettre de la clarté? Comment remettre du sens? Redonner place au débat? Quel cadre pour une discussion critique? On en parle avec notre invité aujourd'hui, le philosophe Frédéric Worms, professeur à l'École normale supérieure, membre du comité consultatif national d'éthique, producteur aussi sur France Culture de Matière à penser, tous les lundis, c'est-à-dire aujourd'hui à 22h15. Auteur des maladies chroniques de la démocratie l'an passé, il vient de co-diriger les 100 mots de la République aux éditions Puf. Bonjour à vous Frédéric Worms.
Bonjour Olivia Gisbert.
Dans votre tribune hebdomadaire, parue vendredi dans Libération, intitulée cette semaine « Après la sidération, le temps du trouble, source de clarté », une première phrase retient particulièrement l'attention Frédéric Worms. S'il y a une erreur à éviter en ce moment, c'est de croire que le débat enfin sorti au grand jour sur le harcèlement sexuel mette en cause les principes républicains, alors qu'en réalité il appelle à leur extension. Pourquoi mettre cette question directement sur le champ républicain, Frédéric Worms?
Oui, on pourrait se le demander. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on découvre des violences omniprésentes, d'une certaine façon, qu'on avait tendance à croire dépassées, justement parce qu'on vit en République, des violences, en l'occurrence, sexistes, on a tendance à se dire ces principes ne servent à rien, masquent une violence réelle, peut-être sont des illusions, et donc il faut peut-être passer à d'autres choses, à des formes de reconnaissance plus directes, plus violentes. Moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, c'est sous le signe de la liberté, de l'égalité, aussi de la loi. Tout ça finira à la fin par un texte de loi qui sera une avancée, je pense, dans la reconnaissance concrète de l'altérité, dans une égalité qui sera encore renforcée. Donc, mon inquiétude, c'était que cette sidération devant ces violences répétées, les plus minuscules dans la rue, mais aussi les viols extrêmes dont on vient d'entendre parler, des meurtres, y compris dans le couple, y compris conjugalement, que cela vienne miner la confiance dans les institutions, alors qu'en fait, il y a qu'elles qui pourront à la fin y répondre. Donc je crois que c'est un progrès potentiel pour les institutions, à condition qu'on y retourne.
Vous dites après la sidération, le temps du trouble, ça veut dire que vous vous êtes aussi, vous, interrogé comme homme, comme professeur, comme camarade, et je ne sais quoi, peut-être comme père, sur cette question de qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir au sein de votre institution, au sein ou tout simplement dans votre vie.
Exactement, oui, j'ai été sidéré par certains témoignages de personnes extrêmement proches me disant, tu te rends pas compte, c'est tous les jours. Dès que je sors en jupe, me disant l'une, c'est une remarque. Dès qu'on est dans le métro, c'est des regards insistants. L'insistance du regard, qui est peut-être déjà du harcèlement, dans la mesure où il y a répétition, alors qu'il y a un jeu d'acceptation et des refus, y compris dans les postures corporelles. Donc, insister, c'est harceler. Et j'avoue que j'étais sidéré que l'espace public, et on revient à la question de la République, soit traversé de ces violences. Et j'étais sidéré par ma propre naïveté. Ces femmes très proches qui me disaient « Ben non, on n'en parle même plus, on ne t'en parlait pas, parce que c'est évident. Mais pour nous, dès qu'on sort dans la rue, c'est un espace de violence possible. » Et j'avoue que dans ma naïveté, je croyais que c'était impossible. Je croyais que le meurtre... Voilà, on peut sortir dans la rue en ayant en partie confiance de ne plus être assassiné. La loi protège, mais je pensais aussi que l'agression sexuelle était aussi... qu'on en était protégé par un certain nombre d'institutions. Et c'est vrai que je me suis senti personnellement responsable de ma naïveté, ma sidération.
Quand on parle de libération de la parole aujourd'hui, Frédéric Worms, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'il ne faut pas passer par un effort de définition d'abord sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qui se joue, et quels sont les termes du débat? Parce qu'on commence à être un tout petit peu noyé, comme je l'évoquais peut-être en introduction, sur les extensions de ce débat. On a commencé, et c'est peut-être typiquement français, à voir cette question des violences sexuelles, du harcèlement, partir sur un retour de la question de la laïcité, de la place de l'islam en France, ce déchaînement des passions, est-ce qu'il est caractéristique du débat français ?
Ben moi, ce qui me frappe, c'est que il faut pas se tromper de questions et sur les questions les plus prioritaires du moment. Et je crois que notre débat public a été centré pendant très longtemps sur des questions d'identité, sur des questions au fond essentialisantes. Qui sommes-nous? Que sommes-nous aujourd'hui dans ce monde qui bouge, etc. L'avantage, si j'ose dire, paradoxal du débat sur la violence, y compris sexuelle, c'est qu'il nous replace plutôt sur les actes et sur les seuils concrets entre les uns et les autres. Et que ça traverse tout le monde, ça traverse toutes les identités, ça traverse tous les milieux. Et peut-être qu'au fond, ce débat transversal, qu'est-ce qu'on peut se faire les uns aux autres sans que ça s'appelle une violence? Où commence la violence? Dans la conversation, dans les rapports corporels, dans les rapports de travail, dans les rapports de toutes sortes. Ça, je crois que ça remet la politique sur son vrai terrain, qui est au fond de construire un espace de reconnaissance mutuelle où on interdit certains actes et on en permet d'autres, mais où on ne parle pas de l'essence des uns et des autres. Je crois même que la féminité, la masculinité, ça n'est pas le sujet. Ici, en l'occurrence, le vrai sujet, c'est la violence entre les êtres, et la dimension sexuelle étant ici une dimension, je crois, de vulnérabilité et de violence potentielle, à cause aussi de nos pulsions, de nos rapports. Donc au fond, revenons sur le terrain des actes, et que ce soit transversal à toutes les identités, à tous les milieu est plutôt un bon signe. On revient peut-être à des vrais problèmes politiques et sociaux après avoir été égaré par des fausses questions.
Antoine, merci.
On parle de la France, mais ce qui me semble aussi fascinant dans ce phénomène que vous dites transversal dans les milieux sociaux, mais c'est aussi un phénomène mondial, il faut le dire, qui touche absolument tout le monde. Est-ce que ça ne donne pas à réfléchir sur ce qui est en train de se passer, quelque chose sans doute d'assez important, dont on ne sortira pas indemne, si je puis dire, la société, les rapports? Qu'est-ce qui peut avoir changé? Qu'est-ce qui va changer?
Oui, je crois que c'est très important. Les vraies questions aujourd'hui sont transnationales. Et là aussi, on assiste à une sorte de progrès, je pense, transnational, sur le fond de risque majeur de régression. On pense à l'élection de Donald Trump, qui s'est faite malgré des vrais risques de violence sexiste, malgré des déclarations inadmissibles. Ce qui est très frappant en ce moment, c'est que d'un côté, on n'est plus dans un état un peu neutre de la démocratie ou des droits de l'homme, je dirais, dans le monde, où on pouvait penser qu'il y avait un palier atteint et puis voilà, que c'était fini en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a soit des régressions dramatiques, soit en effet des avancées, peut-être pour y répondre, peut-être qu'aujourd'hui l'explosion de ces seuils a maintenant franchi un cap tel qu'on peut avancer, on n'a plus peur en effet d'avancer face à des régressions.
Mais entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que ça changera? Qu'est-ce que ça peut changer?
Ah, je crois que ça va changer quelque chose de très profond. Je crois qu'il y a quand même l'espace social à avoir avec une maturité, de fait d'accepter les désirs, la violence possible, d'accepter qu'elle soit possible et d'accepter de la limiter. C'est la condition de la maturité psychique, individuelle, mais aussi collective, et d'une société juste. Bien sûr, on peut avoir d'une certaine manière des illusions, il faut tout interdire ou au contraire tout permettre. La vraie maturité, c'est de tracer des seuils. Et donc, oui, les... peut-être qu'il faut préserver des rapports libres, la présence de la sexualité dans les rapports entre les hommes, les femmes, et d'ailleurs entre des rapports sexuels de toutes sortes. Et puis dans chaque rapport, il faut des limites. On s'aperçoit qu'il y a des violences, y compris conjugales, qu'il y a des viols dans le couple, y compris mariés. Donc ça veut bien dire qu'au fond, d'une certaine manière, les limites ne peuvent pas être tracées une fois pour toutes. La loi peut entrer, y compris dans le couple. Il faut parfois protéger les épouses contre les époux. Ça peut paraître violent.
Là, vous pêchez un peu par naïveté, effectivement, parce que ce n'est pas nouveau. Et on le savait aussi que dans le couple, il y avait des situations de viol.
Je crois que ça reste très difficile à entendre. Qu'il puisse y avoir un viol dans la chambre conjugale. Ça reste presque une contradiction, une irruption de la violence dans l'intimité, comme la maltraitance d'un enfant par ses parents. C'est une chose d'être violé, c'est encore, d'une certaine manière, ça pourrait paraître plus anodin, ça a longtemps été recouvert, mais en fait c'est encore pire en un certain sens d'être violé dans l'enceinte d'une promesse mutuelle de respect et d'égalité, qui est aussi la condition du couple. Donc on peut avoir ce sentiment un peu perturbant que le droit pénètre partout, au détriment des rapports spontanés, libres, amoureux, etc. Je crois qu'au contraire, c'est un cadre qui permet partout une vie plus libre et plus directe, et que, en effet, j'espère, continuera à y avoir des corps qui se regarderont, qui se côtoieront librement, sans avoir à se cacher ni à se porter devant les tribunaux, mais en ayant conscience d'un cadre qui les protège.
Un corps qui ignore sa douleur prend le risque de l'infection, avez-vous écrit à propos du corps démocratique cette fois. Rendre le harcèlement, ces violences sexuelles entre les genres visibles, et notamment ces violences quotidiennes, c'est peut-être la première qualité, voire vertu de ce moment pour vous, Frédéric Worms.
Oui, je crois que, ceci dit, évidemment, il faut distinguer des étapes. Il y a un moment où ces troubles s'expriment par une sorte de, vous avez dit, libération de la parole. Je crois que c'est inévitable, c'est tout à fait normal. C'est un premier registre de parole, le registre de la dénonciation, le registre de l'accusation. Bien sûr, ensuite, il y a le registre...
Vous dites dénonciation, vous dites pas délation, comme Alain Finkielkraut?
Oui, je sais qu'il faut distinguer les deux. Je pense que la dénonciation est au fond pas... hanté par le spectre de la trahison, le spectre du coup de poignard dans le dos et de la trahison de l'innocent vers un pouvoir dictatorial. Il y a d'autres pays où la dénonciation dans un cadre démocratique est tout à fait admise. Si vous roulez aux États-Unis, vous verrez derrière les voitures de taxi ou les poids lourds, si le conducteur fait une conduite dangereuse, appelez-le. Donc cette dénonciation est peut-être un peu tyrannique aussi, c'est peut-être Big Brother dans la rue, mais en même temps, c'est aussi admis par certaines mœurs démocratiques. Là, je crois qu'il ne faut pas confondre. Je crois qu'une certaine forme de dénonciation, quand il y a eu agression, est quand même inévitable. Ça s'appelle, au fond, l'assistance à personne en danger et la réponse juridique. Il faut qu'effectivement, les victimes ne soient pas en plus accusées d'être coupable d'accuser justement leurs agresseurs. S'il y a agression, il faut évidemment qu'il y ait dénonciation.
Par la voie judiciaire, par voie de presse, par la voie des réseaux sociaux, comme ça s'est fait aussi jusqu'ici.
Il y a des degrés.
Tous les registres sont bons pour l'instant.
Mais il faut les distinguer. Je pense vraiment que il faut justement l'essentiel, c'est de distinguer. D'ailleurs, non pas seulement des régimes de parole, comme s'il y avait des régimes totalement libres. Et des régimes légaux, l'institution à un moment juridique, judiciaire même, à son cadre. Et là, la dénonciation va être vérifiée. Il y a des fausses dénonciations. Il y aura des fausses dénonciations aussi. On le sait, il y aura des abus. Mais la loi sera là pour les régler. Mais ce que je pense, c'est que la parole journalistique, la parole médiatique, la parole sur les réseaux est un autre régime de parole, mais néanmoins aussi une institution qui doit aussi, elle aussi, avoir ses limites. Il est évident que l'insulte, la dénonciation peut se passer de l'insulte. Ici, dans le balance-ton, elle passe par un moment de transgression linguistique pour se faire entendre. C'est ça qui produit notre trouble. On sera dans une démocratie plus mûre quand on sera revenu à des régimes de parole dans un cadre qui nous inspirera confiance à tous.
À propos de régimes de parole, voire de registres, j'imagine qu'à vos yeux, on ne peut qu'accueillir positivement la décision d'Emmanuel Macron de faire de l'égalité homme-femme une grande cause nationale. Néanmoins, ça interroge à la fois sur... que peut l'État aujourd'hui sur ce sujet peut-être déjà servir de caisse de résonance, l'assurance aussi de prolonger ce moment par la voix de cette institution, passer aussi peut-être de la spontanéité des réseaux sociaux à l'espace public régulier des institutions, c'est important.
Là aussi, on peut être sidéré que ce soit nécessaire. faire de la l'égalité homme-femme une grande cause nationale, c'est d'une certaine manière sous-entendre ce qu'on disait au début, à savoir que mettre liberté, égalité, fraternité au fronton de nos institutions, vivre dans une république ne suffit pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tension, je dirais, entre république et démocratie. Nous sommes déjà égaux devant la loi, nous sommes des citoyens. Néanmoins, l'égalité n'est pas seulement une aspiration formelle, ça traverse tous les régimes, au fond, de vie entre les humains. Évidemment, entre les hommes et les femmes, et il y a une inégalité anthropologique antique. Françoise Héritier l'avait bien montré, c'est la question clé, la question pivot de toutes les sociétés humaines. Il y a une inégalité sur fond d'asymétrie inévitable, par exemple entre les parents et les enfants, entre les professeurs et les élèves, entre les policiers et les citoyens coupables de crimes. La question démocratique, c'est comment mettre de l'égalité dans ces relations concrètes. Et à chaque fois, ça doit se régler d'une façon qui préserve l'égalité formelle. Nous sommes tous égaux, même un parent et un enfant, un médecin et un malade, même si ce malade est incapable d'exprimer sa volonté, même s'il est dans le coma, même s'il a la maladie d'Alzheimer, il est un citoyen. Et donc le progrès de la démocratie, c'est d'inscrire l'égalité jusque dans ces relations complexes. Et par exemple, un malade ou un nourrisson, son égalité, sa liberté de citoyen va être transférée à un représentant, à un proche, à une personne de confiance. Eh bien, la question homme-femme, c'est évidemment pas cette question de l'autonomie. Les femmes sont tout aussi autonomes que les hommes. C'est plutôt comment confronter l'égalité de principe et cette inégalité ancestrale, profonde, sociale, reconnue par des clichés, aggravée par de l'inconscience, notre inconscience. Moi, je crois qu'effectivement, je serai à jamais perturbé démocratiquement par ce fait que, sans le savoir, sans le vouloir, je méconnaissais un certain type d'inégalité dans mon propre comportement.
Et en même temps, vous ne cessez de le rappeler, la démocratie est en perpétuelle réinvention. Il n'y a pas de démocratie qui soit figée. Est-ce qu'on peut dire que cette question de l'égalité ou de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et sachant que vous venez de rappeler qu'elle était quand même assez structurelle, est aujourd'hui une faiblesse, une maladie chronique, comme vous l'écrivez, de notre démocratie
Bien sûr, c'est un risque chronique. Cette dimension-là de domination hante nos sociétés, et il faut le reconnaître et lutter contre les formes de son retour. Lutter contre les formes de son retour, peut-être lutter aussi contre certaines manières de lutter contre elles. Comme toujours, il peut y avoir des abus, y compris dans la dénonciation, comme on disait tout à l'heure, y compris dans la lutte pour l'égalité. Ça s'est vu, hein, de défendre des tyrannies au nom de l'égalité. Il faut donc partout inscrire des seuils. Mais je crois qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas cette conscience partout qu'il y a ce risque, qu'il peut revenir, qu'il est porté par des réflexes séculaires et des institutions qui l'ont masqué, je crois qu'il faudra en prendre conscience.
Est-ce que cette notion d'égalité, malgré tout, peut envahir tout le champ ? Vous preniez l'exemple de professeur-élève.
Oui.
Bon. Est-ce que, certes, il y a sans doute un rapport d'égalité à avoir, voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport d'inégalité ? Et vous-même, peut-être, vous allez vous rendre compte dans 5 ans que naïvement, vous pensiez bien faire et que vous avez été un maître ou un professeur qui s'était mis en position de pouvoir, finalement, peut-être à un certain moment, par rapport à des élèves. En gros, est-ce que cette dimension-là n'est pas aussi, j'allais dire, quelque chose qui participe de la transmission, par exemple ?
Alors, merci d'y revenir, parce que je pense qu'il y a des situations concrètes où l'égalité ne peut pas être directement traduite comme elle l'est entre des citoyens majeurs qui votent devant une urne dans un isoloir. Entre des parents et des enfants, déjà, il y a une délégation de la liberté qui fait que, dans certaines limites, il n'y a pas la maltraitance, évidemment. Les parents, par exemple, ne peuvent pas non plus interdire certains soins. S'ils ne veulent pas que leurs enfants soient soignés, ça peut arriver dans certains cas. Et bien de même, dans les écoles, l'autorité des professeurs sur les élèves est établie par une loi qui fait que néanmoins, les enfants ont... Il y a des limites à cette autorité quand elle devient abus de pouvoir, évidemment. S'il y a du harcèlement, par exemple, pour prendre le même exemple, entre un professeur et des enfants ou des élèves. Mais il y a aussi une reconnaissance de cette asymétrie sans laquelle il n'y a pas d'enseignement possible. L'institution républicaine garantit justement l'égalité entre les élèves, la transmission d'un savoir par un professeur qui est reconnu, par une science qui est respectée. Le professeur ne dit pas n'importe quoi, il a une légitimité, il est investi d'une autorité républicaine. Il a certains droits qui lui sont sont consentis par délégation sur les élèves, qui sont consentis par la communauté républicaine. Donc la liberté et l'égalité sont des choses beaucoup plus complexes qu'on ne croit, dont la force démocratique est de s'adapter aux situations concrètes. C'est toujours difficile. Moi, ma thèse, c'est que la démocratie ne résout pas les problèmes magiquement, et que même le progrès de la démocratie, c'est de voir de nouveaux problèmes apparaître. On pourrait prendre aujourd'hui la question du droit des animaux. Comment donner des droits aux animaux? C'est certainement pas en les faisant voter aux élections. Bon,
à partir de quel âge, on ne sait pas.
Voilà, à partir de quel âge, de quel type de cri ou de mouvement dans l'espace. Les abeilles, par exemple, ça va être compliqué de les mettre dans l'isoloir, bon, ben, ou alors dans la ruche. Mais non, pour être très sérieux, comment aménager néanmoins une reconnaissance de ces droits par la médiation des ONG, par des intérêts contradictoires des défenseurs de la nature, etc. Dans l'espace humain, le progrès de la démocratie, c'est un progrès des problèmes démocratiques. Ce n'est pas des solutions magiques, c'est des lignes complexes.
Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table du lundi, Frédéric Worms, professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure et auteur de Maladies chroniques de la démocratie. Vous venez par ailleurs de co-diriger les 100 mots de la République au PUF. Vous vous êtes d'ailleurs occupé de l'occurrence démocratie. C'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
L'invective plutôt que le débat, c'est un peu le sentiment qu'on a eu ces dernières semaines à partir de cette question de la libération de la parole. Le débat est parfois sorti des rails, parfois il a retrouvé aussi un ton un peu plus élevé. Cette question du débat démocratique, du débat qui peut faire avancer aussi les choses et qui peut faire réfléchir surtout, elle est au cœur de la position de l'intellectuel en France, on en parle depuis longtemps. L'assurance et la posture du décideur, pas celle du penseur, disait le philosophe Jean-Luc Nancy. Quel rôle pour les intellectuels? Je vous propose, pour retrouver un peu de clarté, voire de sérénité, d'écouter la parole du philosophe Raymond Aron à ce sujet.
Un libéral refusera nécessairement de fixer aux intellectuels une vocation exclusive et monopolistique. Il y a des intellectuels qui ont accompli leur destin en étant des parlementaires, des conseillers des princes, et ainsi de suite. D'autres ont réussi leur existence en restant dans les tours d'ivoire. Il y en a d'autres qui peut-être ont rendu quelques services limités, en essayant au milieu des passions politiques, de penser aussi froidement que possible sur l'histoire en train de se dérouler. Et ce qui me paraît impossible, c'est de répondre à votre question, comme si il y avait une vocation inscrite au ciel que tout le monde devrait accepter. Je respecte les différents choix des intellectuels. Après quelques hésitations, j'ai choisi un choix relativement difficile, c'est-à-dire essayer d'écrire de manière relativement scientifique sur les événements actuels et en même temps écrire sur les événements intellectuels sans être un spectateur détaché et sans être fanatique.
Ni spectateur détaché, ni fanatique, nous dit le philosophe Raymond Aron. Est-ce que, Frédéric Worms, l'effondrement, l'effritement des structures politiques, des clivages partisans aussi traditionnels, a eu, selon vous, un effet, un impact sur la manière dont s'organise aujourd'hui le débat public et intellectuel?
Oui, moi je pense, qu'est-ce qui définit traditionnellement l'intellectuel? L'intellectuel, c'est celui qui, au fond, articule ensemble, pourrait dire d'abord des principes universels et puis des cas historiques, qui intervient au nom de principes dans la sphère de l'événement. Mais en même temps, ça n'est pas seulement celui qui connaît, qui défend certains principes, c'est aussi celui qui les a travaillés dans sa vie intellectuelle, justement, qui a une œuvre de réflexion sur ces principes. Même Zola, dans l'affaire Dreyfus, il intervient en tant qu'intellectuel parce qu'il a écrit au nom de la vérité, c'est son naturalisme en tant que romancier, et puis il a même écrit sur la vérité. Il a écrit des évangiles dans lesquels, des nouveaux évangiles républicains, disons, dans lesquels, parmi lesquels il y avait l'idée de vérité. Donc au fond, il intervient au nom d'une certaine expertise dans un événement qui lui semble requérir cette intervention, et on vient d'entendre Raymond Aron dire que c'est toujours un risque parce que l'événement n'est jamais entièrement lisible sur le fond d'un principe comme une application simple. Là, on tombe dans l'intellectuel dogmatique pour qui l'histoire est une science et il l'a prédit depuis son savoir. Inversement, l'événement n'est jamais aussi si opaques qu'ils ne permettent de réfléchir avec des principes. C'est pour ça qu'on a besoin des intellectuels. Et ce que je trouve triste dans le déchirement actuel, dans ce qu'on appelle la gauche, c'est qu'on se bat sur des tensions internes en oubliant les principes qui sont le cadre et qui, quand même, devraient être rappelés.
Et vous avez écrit à ce sujet dans une tribune à l'Obs au printemps dernier, pourquoi la gauche doit faire son inventaire. Vous appeliez à un retour de la discussion critique, nécessité d'une critique fondée, selon vous, sur des principes et sur des faits.
L'expérience,
le savoir, voilà. Faut-il le rappeler, les vrais dangers contre les faux, les vraies ressources contre les mythes, qui évite donc à la fois l'idéologie sans contenu et le pragmatisme lorsqu'il est sans principe. Antoine Mercier.
Oui, je crois qu'il faut repréciser ce que vous dites là sur les deux gauches, sur le débat. Je veux dire, si on a bien compris de quoi vous parliez ou de quoi nous parlions. Plenel contre Charlie, pour parler clairement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas quand même là deux positions, finalement, qui peuvent intellectuellement se soutenir, ou est-ce que, pour vous, il y a quelque chose qui a dépassé le rôle de l'intellectuel?
Alors d'abord, justement, c'est bien de revenir sur des positions et pas sur des personnes ou même sur des rhétoriques qui personnalisent et qui ont lieu à un certain régime de discours. Mais je crois qu'en effet, il y a des positions, mais je dirais dans un cadre commun. Qu'est-ce qui fait qu'on dit encore, j'allais dire, les deux gauches? C'est que, au fond, il y a deux manières de revendiquer la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de l'altérité, qui est un de nos problèmes dans les démocraties. Et on sait bien que on peut reconnaître l'altérité comme autre dans sa différence, on pourrait dire, et aussi, ou bien la reconnaître sur le fond de ce que nous avons en commun, sur le fond de l'universel. Je pense que la gauche, entre guillemets, a toujours été déchirée entre ces deux modes de reconnaissance, de l'altérité concrète, qui pourrait même être un peu violentée par l'universel abstrait, c'est-à-dire nous sommes tous libres et égaux. Au fond, oui, mais il y a certains qui sont un peu moins égaux que d'autres, justement, peut-être certains corps avec des pratiques sexuelles ou des histoires de discrimination qui les affectent encore, en quelque sorte. Et donc, l'universel abstrait ne suffit pas, mais d'un autre côté, reconnaître seulement la différence sans admettre qu'on a besoin de principes universels, c'est grave. Et donc, il y a cette tension. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on rappelle que cette tension a lieu dans ce cadre de la reconnaissance de l'autre. Et que, par exemple, la question de la religion, la question de l'islam, soit toujours prise aussi avec les autres questions, les questions d'égalité, les questions d'accueil des migrants, les questions qu'on ne confonde pas, qu'il faille voir les questions partout sous l'angle des principes politiques et pas sous l'angle des identités abstraites.
Et là, vous allez vous faire accuser de bien-pensance, hein, si vous allez sur le terrain des valeurs et des principes, non ?
Je crois que moi, je suis un peu fatigué des intellectuels qui transgressent la bien-pensance, qui se pensent eux-mêmes comme transgressifs au nom d'une critique de la bien-pensance, laquelle, au fond, ne désigne rien d'autre que les principes qui nous permettent de vivre ensemble. Et ces intellectuels pseudo-transgressifs qui disent on en a assez de ces valeurs, le droit de l'homisme, la bien-pensance, ce sont eux qui ont jeté de l'huile sur le feu des vrais problèmes du monde contemporain. Pour moi, la crise de la démocratie et de la République a deux causes. Une cause objective, des vrais bouleversements mondiaux, y compris Internet, et des choses vraiment réelles et sérieuses. Et d'autre part, un certain nombre d'intellectuels qui jettent de l'huile sur le feu au nom de la critique de cette bien-pensance. Donc moi, je pense, critiquons plutôt les supposées transgressions et appliquons les principes d'une manière critique, ce sera jamais simple et net. La preuve, c'est qu'il y a des tensions et que les deux gauches dont on parle, je crois que la preuve qu'elles ne sont pas dans la bien-pensance, c'est qu'elles ne sont pas d'accord.
Je pourrais quand même, oui, revenir là-dessus, parce que bon, les anti-bien-pensants, ils pensent ce qu'ils pensent, mais là, enfin, on a affaire avec Plenel, encore une fois, le débat, parce que je le simplifie comme ça, mais ce débat sur, qui a opposé donc Louis Plenel et Emmanuel Valls d'un côté, Charlie Hebdo de l'autre, il y a quand même eu ces deux gauches qui se sont exprimées, encore une fois, avec une position qui visait à l'universalisme à chaque fois, c'est-à-dire d'un côté Charlie Hebdo qui voulait dire bah, il y a une manière de défendre la laïcité qui permet de dépasser tous les clivages et tout le monde doit s'y retrouver, c'est la position de Manuel Valls aussi, et d'un autre côté, non, il y a d'autres, il y a au nom de l'altérité, du côté de Plenel, bah, il y a des musulmans, donc il faut tenir compte dans notre société, on ne peut pas forcément non plus dire n'importe quoi sur eux. Donc quand même, il y a des bonnes intentions, si je puis dire, et des volontés de faire vivre une altérité dans les deux systèmes. Est-ce que vous pouvez nous faire Puisque vous êtes là pour ça,
et les deux, et je vais compléter la question d'Antoine, parce que les deux ont quand même aussi ramené ce débat sur le terrain de la liberté d'expression. Hein. D'un côté, Renaud Dely de Marianne nous dit que depuis les attentats de janvier 2015, Charlie peut tout se permettre. De l'autre côté, Edwy Plenel estime qu'il peut débattre avec qui il le souhaite. Dans un billet sur Mediapart, il a rappelé que c'est par principe qu'il laisse la parole à Tariq Ramadan sur le terrain des libertés face à l'intolérance d'où qu'elle vienne. Il faut entendre, il faut discuter, il faut débattre. Voilà, vous savez tout ça.
Si c'est ce que disait Antoine Mercier au début, c'est-à-dire ces positions qui s'opposent sur le fond de principes communs, pour moi c'est le vrai débat démocratique et c'est normal qu'on n'en sorte pas. Il y aura toujours au fond cette tension interne à la démocratie et qui d'ailleurs, Raymond Aron le savait bien en son temps, travaille aussi la droite qui d'un côté est pour la liberté individuelle mais qui d'un autre côté rencontre bien aussi l'interdépendance des uns et des autres, les besoins de solidarité et qui, bon gré mal gré, néanmoins, pour les plus raisonnables d'entre eux, pensent encore cette tension entre liberté et égalité. Si on prend cette tension entre l'universel et la différence, elle travaille en effet l'universalisme de la gauche et c'est normal. Le point en effet des graves et qui est le signe aussi du contexte dramatique de l'époque. Il y a quand même eu des attentats terroristes, il y a quand même eu des menaces des deux côtés. Peut-être que ces personnes dont on parle se déplacent toutes avec des gardes du corps. J'étais dans un débat récemment avec Catherine Meurice, une dessinatrice qui vient de publier La Légèreté, qui est encore avec des gardes du corps et qui d'une certaine manière met du temps à se remettre des attentats de Charlie Hebdo dans sa vie elle-même. Je pense qu'ils n'autorisent pas tout. Effectivement, personne ne peut tout se permettre. Et d'une certaine façon, je pense que la force de Charlie Hebdo, c'était de le savoir. Peut-être qu'ils allaient trop loin, en effet, qu'ils ne tenaient pas compte du contexte de l'inégalité entre certains groupes dans notre pays. Mais quand il y a une plainte, ils acceptaient le jugement des tribunaux. Il y a quand même la liberté d'expression et la loi. Et d'une certaine façon, c'est la force de nos institutions critiques. Les journaux, encore une fois, sont des institutions, les réseaux sociaux aussi, de se soumettre à cette autre institution qu'est la loi républicaine. C'est la force. Personne, en effet, ne peut tout se permettre. Et ça vaut pour les uns comme pour les autres. Et je pense que cette limitation par une institution tierce, par la justice, par cette limitation qui permet le débat intellectuel et qui régule ces excès est fondamentale. Les excès vont surgir. Quand nous disputons, même entre amis, même dans une famille, on va trop loin. Mais la question, c'est que rétrospectivement, on rétablit ce cadre, et c'est le cadre qu'il faut absolument protéger aujourd'hui. Donc je crois en effet que ni Charlie, ni Mediapart ne peuvent aller trop loin. Ils ont contribué les uns et les autres à dénoncer des abus, il ne faut pas qu'ils en commettent eux-mêmes, mais ce cadre, malheureusement, eh bien, parfois il faut le rétablir, parce que parfois il est ébranlé. Moi, je ne veux pas faire une sorte de juge de paix abstrait, quand je suis en colère, je dépasse aussi les limites, certainement, mais je pense que c'est très important de personne ne fragilise le cadre commun.
Et qui donc pour siffler la fin de la partie?
Si c'est pas vous.
Non, justement, il ne veut
non,
pas
je jouer les casques bleus. La fin d'aucune partie. Je pense que nous
qui sommes. Qui a cette légitimité-là?
In fine, ce sera la République française.
Merci beaucoup, Frédéric Worms. Les 100 mots de la République, ouvrage que vous avez co-dirigé, un que sais-je qui vient de paraître au PUF. Et voilà, juste donc tout nouveau, tout frais. Un grand merci à vous, un grand merci à Antoine Mercier et à toute l'équipe de la Grande Table à la programmation préparation. Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec Bertie Bourdon et Maxime Morin. Chaque jour, quand une Grande Table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. À la réalisation aujourd'hui, Alexandre Fougeron, rendez-vous demain. D'ici là, très bel après-midi.